Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je voudrais aborder un sujet qui peut nous encourager à aller de l'avant. Oui. Vous savez que, en tout temps, le monde, celui d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, a été souvent secoué par des migrations. On en parle beaucoup aujourd'hui, hein. Les flux migratoires. Et ça, c'est un problème. Un problème pour les pays qui accueillent. Et c'est aussi un problème pour ceux qui fuient, pour différentes raisons, naturellement. Et il y a des populations, des déplacements considérables de populations, hein, de par le monde. Vous savez que les deux dernières guerres mondiales, a vu sur les routes, sur les chemins, et voire sur des chemins de fer, hein, ça nous rappelle une triste période de des camps de concentration, et bien là, des centaines et des centaines de milliers, des milliers donc de personnes et des femmes, des enfants, des vieillards, enfin tout ce qui peut se présenter naturellement. On parle aujourd'hui de ce génocide arménien. On a parlé de génocide des juifs, hein, des déplacements de population, par exemple les tziganes et toutes sortes de et d'autres naturellement. Plus récemment, eh bien il s'agissait des Boat People en Asie du Sud, Sud-Est, et puis le Rwanda, hein. Tristement. Alors, nous sommes en plein conflit actuellement avec les émigrés, naturellement, enfin, conflit, accueil de tous ces malheureux qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, et c'est vraiment une tragédie humanitaire. Et la Bible nous en parle, figurez-vous. Elle nous parle d'une émigration réussie. Oui, ça existe. Eh oui, ça peut exister. Quand il s'est agi de cette migration des Hébreux vers le pays de Canaan. Mais là, c'était conduit par Dieu. C'était une conduite et une direction que Dieu avait donnée. Et nous voyons que nous l'avons encore consigné dans la Bible. Et ça, c'est fait pour nous, finalement. Et j'aimerais vous en parler. Parce que, quelquefois, le peuple de Dieu aussi a besoin de bouger. Il a besoin de passer des frontières, de prendre des décisions, et puis d'aller plus loin, d'aller dans ces pays de Canaan. Vers de nouvelles terres. C'est ce qui s'est passé dans notre vieille Europe, hein, de la Renaissance, où tous ceux qui étaient persécutés dans nos pays, eh ben ils sont allés ouvrir l'Amérique. Et puis les Espagnols, l'Amérique du Sud. Et puis l'Afrique du Sud. Et puis le monde entier. Hein. Et c'est comme ça que le christianisme s'est répandu. Alors il y a naturellement eh bien, des choses qui ont été heureuses, des choses malheureuses. Mais si nous écoutons la voix de Dieu, ça sera toujours une bénédiction pour nous. Et quelquefois, Dieu nous demande de bouger. Il nous demande de franchir des frontières, parce que c'est lui qui les a rouvertes. Et puis, il y a des frontières qui resteront fermées. Hein. Moi, je pense par exemple à la Corée du Nord. Mais il ne faut pas se désoler ou se désespérer, parce que, vous savez, les frontières du pays de l'Est se sont ouvertes aussi, hein, pour donner la liberté aux gens. Mais quelle liberté ? Encore une fois de plus, j'ajoute, si c'est la liberté de Dieu, ça va. C'est bon. Ça sera une bénédiction pour le monde. Alors, j'aimerais lire quelques passages dans notre Bible et nous allons voir de quoi il s'agit. Et écoutons mes frères parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des bouleversements et des changements. Il y en aura dans le monde, il y en aura encore. Mais ça peut être aussi dans l'Église. Hein. Ça peut être peut-être pour nous-mêmes. Alors, dans Nombre, chapitre 13, on va lire par petite touche, mais je vais essayer, pour être bref, de collecter l'essentiel. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 1er. Et vous remarquerez que c'est un ordre de Dieu. Quand c'est les hommes qui donnent des ordres, c'est souvent, délétère. Mais quand c'est Dieu qui parle, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. » Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse, et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille, et nous avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Première lecture, la deuxième qui va la compléter sera notre conclusion. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Une phrase. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtriez-vous pas. Je relis. Ne pensez plus aux événements passés. N'attachez pas de l'importance à ce qui est ancien. Parce que moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Est-ce que vous aurez la foi pour le croire? Est-ce que c'est ça? Parce que Dieu se révèle que s'il y a de la foi. Si nous restons dans le doute, dans les spectatives à nous poser mille et une questions, Dieu nous ne révélera jamais la suite. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous avançons. Alors, si nous reprenons notre première lecture, l'ordre, et je le précise, vient de Dieu. Ce n'est pas Moïse, c'est Moïse qui reçoit l'ordre de Dieu, tout simplement, avec ce mandat de chercher parmi les princes d'Israël, donc chefs de tribu, 12 hommes, dont les noms sont donnés, je n'ai pas voulu le lire pour faire un petit peu plus court, mais vous pouvez les voir, ils sont juste en dessous. Et Dieu précisera, tu les envoies pour explorer, pour faire la découverte du pays, pour qu'ils puissent, pendant le temps qui leur est imparti, donc 40 jours, qu'ils puissent aller du nord au sud, de l'ouest à l'est. Et que là, ils regardent, qu'ils découvrent parce que c'est un pays de ruisseaux et de rivières, c'est un pays de plaines, c'est un pays de montagnes, c'est un pays merveilleux. Le choix de Dieu. C'est là où l'on s'épanouit, c'est là où l'on est heureux, c'est là où l'on sert Dieu, c'est là où Dieu va faire de grandes choses, encore aujourd'hui, hein, parce que c'est pas une histoire d'hier, hein, ni même d'avant-hier, hein. Et Dieu dit, voilà, tu vas les envoyer explorer, il faut qu'ils le voient, et ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront entendu, eh bien, ils le diront à d'autres, c'est un témoignage. Ils verront que leur Dieu est bon, que le Dieu qui les a fait sortir précédemment d'Égypte n'est pas un Dieu qui va les tromper. C'est pas un Dieu qui, quelque part, eh bien là, va les amener à se fourvoyer. Non, ils vont voir ce que Dieu a fait pour eux, ce que Dieu va faire pour eux, et ce qu'il leur prépare dans le confort et le bien-être, une bénédiction. Alors, tu vas les envoyer explorer, et ensuite, quand ils auront vu, ils parleront. Ils diront à d'autres ce qu'ils ont vécu. Et Dieu va préciser, mais ce pays que je vous parle, c'est un pays que je donne. C'est un pays que je vous offre. C'est un cadeau. C'est une faveur de ma part. C'est une bénédiction qui est finalement à sa genèse, mais qui va se perpétuer de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le cadeau de Dieu. Alors Moïse, qui est un homme de foi, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il va leur dire tout simplement ceci. Vous irez par le midi, vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, vous verrez le peuple qui l'habite, s'il est faible, s'il est petit, s'il est en grand nombre, où il habite, s'il fait bon ou mauvais, ce que sont les villes, si elles sont ouvertes, si elles sont fortifiées, si le terrain est gras ou maigre, s'il y a des arbres. Et il leur dira tout simplement, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. Tout simplement. Voilà, ce sont des émissaires, des ambassadeurs, mais qui vont pas dire qu'ils viennent pour regarder. Hein. Ils viennent tout simplement, mais parce qu'ils sont mandatés. Il ne leur arrivera rien parce que Dieu les a mandatés. Quand on avance par la foi comme ces hommes qui sont mandatés, il ne peut rien nous arriver puisque c'est Dieu qui nous accompagne. N'ayez pas peur. Alors ils montèrent et explorèrent le pays. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Toutes sortes de villes. Et il nous est dit qu'à un moment donné, je vais faire court, mais il nous est dit que dans la vallée d'Eshkol, eh bien, il y avait une grappe de raisin qui était portée par deux hommes. Imaginez-vous, une grappe géante pour montrer la profusion et l'abondance. Vous vous rendez compte d'une grappe de raisin? Vous voyez, les peintures là du 17e siècle ont dépeint, il y avait des peintres à ce moment-là, et formidable. Et, hein, on les trouve dans les musées, ces peintures là de la grappe de raisin de Canaan, hein, formidable, hein, extraordinaire. Hein. Puis le raisin, hein, c'est ce qu'il faut en faire. Hein, quand il est à point, ben il fait un vin capiteux, là, c'est la joie, c'est l'image de la joie. Jésus en a pris d'ailleurs comme exemple. Hein. Voilà, tout simplement. Et on sait que Jésus, même pour la Sainte Seine, et avant tout pour la Sainte Seine, en mémoire de son don, hein, de ce qu'il a fait pour nous. Alors, ils sont revenus un beau matin, et après 40 jours, on peut en faire des choses pendant 40 jours, naturellement. Alors, ils se sont rendus vers Moïse et Aaron, tout simplement, et ils ont convoqué une réunion solennelle, une assemblée générale, pas annuelle celle-ci, une assemblée générale pour tout le monde, et ils ont fait un rapport. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont commencé à montrer les fruits qu'ils avaient ramenés. Hein. C'est ce que nous avons lu il y a un instant. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Eh bien, nous sommes bien allés dans ce pays dans lequel tu nous as envoyés. Mission accomplie. Très bien. Et ils vont dire une chose qui va être d'autant plus étonnante qu'ils vont dire le contraire après. Ils vont dire, mais à la vérité. Ça nous rappelle les paroles de Jésus, en vérité, je vous le dis. Pour bien ponctuer que ce n'est pas autre chose que la vérité, et que là le rapport va être véritablement de pleine exactitude. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. C'est ce qu'ils diront. Alors quand vous avez une promesse, quand vous avez sur un témoignage tant de belles choses, tant de choses magnifiques qui nous sont proposées, qui nous sont offertes, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous avons qu'une envie, hein. La curiosité nous pousse à dire, mais voilà, nous voulons le vivre. Nous voulons véritablement, eh bien, rentrer pleinement dans cette dimension. Mais, oui, il y a un mais. Il y a un mais parce que sur les 12, tout le monde n'est pas d'accord. Mais le peuple qui habite ce pays, voilà, à la vérité, c'est bon. C'est magnifique, c'est la bénédiction, mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous fait des promesses et que nous mettons un mot derrière, un mais derrière, eh bien, il y a quelque chose qui commence à ne plus aller. Dieu veut nous voir avec la plénitude de la foi. Il n'y a pas de mais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu, quand il appelle, quand il conduit son peuple, quand il conduit une vie, quand il nous dirige, il n'y a pas de mais. Il faut que absolument nous arrivions à comprendre cela. Bien sûr, nous avons les ennemis, les Amalécites, les Pharisiens, les Cananéens. Vous savez, vous les connaissez ceux-là, ils sont morts depuis longtemps, mais l'esprit est toujours le même. Ce sont les ennemis spirituels du chrétien. C'est le doute. Mais le doute négatif, parce qu'il y a un doute qui peut exploser vers le haut et qui nous amène à plus de foi. Et ce doute qui nous tire par les pieds, là, pour nous faire descendre. Alors, mais le peuple qui habite ce pays, nous l'avons vu. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il est puissant. Les villes sont des villes fortifiées. Elles sont très grandes. Et même, nous avons vu des géants. Ah, les géants et les sauterelles. Quand même pas la même taille, hein. Eux, les Israélites pensaient qu'ils étaient des sauterelles. Et puis, dans ce pays qu'ils allaient conquérir, ils devaient faire face à des géants. Mais y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? Nous dit Jérémie. Parce que nous serons toujours confrontés avec des géants dans notre vie et nous nous sentirons comme des sauterelles, d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu les fils d'Anak. Et puis il y a les Amalécites, il y a les contrées, il y a ceci et cela. Ben, ils s'imaginaient pas que de toute façon Dieu leur allait leur donner un territoire où il n'y aurait personne dessus. Hein. Il y avait des habitants avant. Même du temps d'Abraham, il y avait des habitants. Abraham qui avait suivi le voie de Dieu sans discuter, où il n'y a pas eu de mais pour lui. Enfin, il s'est dit, mais je suis pas tout seul, moi, Dieu me donne un pays, je pensais que j'allais... Il était pour moi tout seul. Ben non. Et le problème, c'est que nous vivons dans un monde où on n'est jamais tout seul. Il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne, et il y a aussi les ennemis de Dieu qui nous attendent. Mais n'ayez pas peur. Si c'est Dieu qui nous conduit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il y en a un qui va se lever, compagnon de Josué, il s'appelle Caleb, et il a dit, ça suffit. Faut toujours qu'il y ait des gens d'autorité quand même. Imaginez une église, ou un peuple, ou un pays, sans véritable autorité. Ben, ça va de travers. Chacun va faire et ceci et cela. Mais vous savez ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'avoir des hommes qui ont une vision. Ouais. Parce que, il nous est dit, sans vision, le peuple dépérit. Et il y a besoin d'avoir des hommes dans nos églises qui ont une vision. C'est pas des tyrans, c'est pas des despotes. Non, c'est des gens qui ont une vision et la vision de Dieu. Et plus que jamais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des hommes, des frères, des pasteurs, des conducteurs spirituels qui ont une vision. Et Caleb est un homme qui a une vision. Un homme d'exception. Moïse avait la grande vision. Josué avait la grande vision. Caleb aussi avait cette grande vision. Et il va dire, arrêtez, hein, ça va. Vous n'y avez pas été, moi j'y suis allé. Et j'ai vu. J'ai vu et j'ai compris ce que Dieu voulait nous donner. Alors il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Pauvre Moïse, qu'est-ce qu'il en a pris plein la tête, hein, tout au long de sa vie. Hein. Dites donc, jusqu'à 120 ans, il en a entendu. Hein. Moi j'ai toujours remarqué que les gens, quand ils sont en poste, ils sont souvent critiqués d'une manière ou d'une autre, hein. Mais quand ils sont morts, ils sont plus là pour l'entendre. Eh oui. Montons, dira-t-il. Il va pas perdre son temps à expliquer ce qu'il a vu, etc., les grappes de raisin, et puis ceci et cela. Non, il va dire, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Voilà un homme qui a la foi. Voilà un homme qui va pas s'embarrasser de toutes sortes de considérations de ce qu'il entend à l'extérieur. Mais c'est son cœur. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Ah, nous ne pouvons pas. Voilà. Et pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu ne veux pas. Mais tu ne veux pas, non pas en raison de ce qu'on te demande, mais tu ne veux pas croire que c'est possible de faire ce que Dieu te demande. Tout simplement. Alors, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Bah, bien sûr qu'il est fort. Bien sûr. Il est plus fort que nous. Alors, ils se sont mis à décrier devant les enfants d'Israël qu'ils avaient, le pays qu'ils avaient exploré, et ils continuent leur litanie. Vous savez, quand on part dans une direction de négativité, une direction où ça ne nous convient pas, on devient des mécontents. On devient des gens, pour un oui ou pour un non, nous allons critiquer. Ah, ça ne convient pas, c'est pas ceci, et puis c'est pas cela. Ben, écoutez, on ne s'en sort pas quand c'est comme ça. Hein. Quelquefois, il y a des peuples et des nations qui tournent en rond. Hein. C'est malheureusement le cas dans certaines situations contemporaines. Alors, on tire à U, on tire à Dia, on tire d'un côté, on va d'un autre, puis finalement, ça n'avance rien. Faute d'autorité, d'une véritable autorité. Et c'est important pour que nous puissions prier, pour que Dieu, véritablement, donne de véritables autorités du Saint-Esprit déléguées par le Seigneur. On n'est pas Dieu, hein. C'est Dieu et Dieu, il reste Dieu. Mais il appelle pour donner des autorités déléguées. Et ça ne touche pas seulement le pasteur, mais ça touche aussi des frères anciens, des frères qui sont là et qui ont à cœur, eh bien, la conduite de l'Église. Et les uns et les autres, eh bien, nous avons un rôle à jouer dans l'Église. C'est pas l'affaire d'un homme, on l'a dit, la semaine dernière, hein. Et c'est l'affaire de tous. Et quand on a véritablement, eh bien, là, à travailler ensemble et qu'on travaille paisiblement, harmonieusement, dans la paix et dans l'amour de Jésus, vous savez, tout est facile à ce moment-là. Ouais. Et l'œuvre de Dieu n'en reçoit que la bénédiction. Alors, il dévore les habitants. Ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants. Et à leurs yeux, nous étions, eh bien, comme des sauterelles. Écoutez, moi je vous rappellerai ce texte que vous connaissez bien. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a des défis à relever dans notre monde d'aujourd'hui, hein. Moi je vous dis que nous sommes dans la proximité du retour de Jésus. Je ne vais pas vous dire quand, parce que je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que le monde bouge. Le monde est en train de chanceler sur ses bases, s'il a encore quelques bases, hein. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous appelle. Et Dieu va nous conduire, et Dieu va nous diriger. Et il ne faut pas rater la porte. Vous savez, dans un pays, il n'y a pas 36 frontières, hein, il n'y en a pas tous les kilomètres. Il y a des lieux de passage, il y a des endroits de passage. Et je pense qu'il faut prendre la bonne porte. Il faut rentrer là où Dieu, finalement, veut nous faire rentrer. Et c'est essentiel. Alors, il se sous-estime les Israélites. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, hein. Et quand bien même il y aurait des Amalécites, il y aurait des Cananéens de tous les côtés, même quand bien même il y aurait des forteresses non pas matérielles, mais des forteresses spirituelles, parce que c'est ça ce que nous avons affronté. Paul le dit bien, par exemple, dans Éphésiens chapitre 12, hein, 6, pardon, et on voit bien que il y a là tout un engagement. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que, finalement, ils avaient tellement commencé à pleurer, ils avaient tellement commencé à gémir, c'est que toute l'assemblée, après avoir, eh bien, là, entendu à la suite de cette convocation générale, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et elle pleura. Écoutez, une bonne nouvelle comme ça, que ces hommes positifs, deux, Josué et Caleb, venaient d'apporter, eh bien, ça fait pleurer le peuple. Alors moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, là, cette affaire. C'est quand même dommage. Ça faisait déjà 2 ans environ qu'ils étaient sortis d'Égypte à bras étendus avec la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Pharaon out, son armée noyée à travers cette première traversée pendant les 2 premières années. Où Dieu nourrissait le peuple, où Dieu envoyait de l'eau dans le désert, où il envoyait les cailles, où il envoyait la manne et toutes sortes de choses. Leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont pas usés. La faillite pour les marchands de vêtements, hein, terminée. Voilà, c'était extraordinaire tout ça. Ils avaient vécu ça, ils avaient vu les choses. Moïse qui prend là un bâton et qui fait sortir l'eau du... Hein, où il jette un morceau de bois dans à Élim, et voilà que l'eau amère devient de l'eau pure, de l'eau qui est buvable, potable. Ils avaient tout ça dans la tête. Ah, ils l'avaient vu. Et bien malgré ça, Josué et Caleb leur dit, mais attendez, on va rentrer maintenant, ça va être fini. Vous savez ce qu'ils ont gagné? Dieu leur a dit, vous avez marché 2 ans, vous voulez pas rentrer? Ben, ça vous dirait peut-être pas d'aller faire un petit tour pendant 38 ans dans le désert maintenant? Oui. Et vous savez que le désert, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a des gens qui aiment le désert. Ils sont comme s'ils étaient là, pris par un enchantement du désert. Enfin, bon, moi, je ne sais pas, ça convient peut-être pas à tout le monde, mais le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas d'eau. Hein, c'est très froid la nuit, c'est très chaud la journée. Jusqu'à perte de vue, vous voyez personne, hein. Voilà. Les conversations sont très limitées, hein, si vous êtes tout seul, hein. Alors, c'est tout un ensemble de choses. Eh bien, ils sont restés dans le désert pendant 38 ans supplémentaires. Est-ce que véritablement l'Église est prête à faire du surplace, du parking? Voilà. Non, moi je crois que l'Église et chacun d'entre nous, pour notre propre vie, Dieu nous dit, allez, maintenant avance en pleine eau et jette tes filets. C'est pas ça ce que quelqu'un a entendu un jour, hein? Pierre, il a cru à moitié. Eh d'accord, j'ai bien entendu, tu l'as dit au pluriel, mais moi j'aurais quand même faire un petit test avec toi, je vais en jeter un, on va voir ce que ça va donner. Ben, il a rejeté les trois ou quatre filets qu'il avait, ça aurait été autre chose déjà. Enfin bon, ça lui a permis quand même de se convertir. C'était déjà pas mal, devant la chose. Alors, ils ont poussé des cris et ils ont pleuré toute la nuit. Ah, Seigneur, c'est quand même terrible. Vous savez, ils n'avaient pas compris, Alors, encore une fois, ils murmurèrent contre Moïse et ils se sont mis à penser à la vie d'avant. Ils disaient, mais on aurait mieux fait de rester en Égypte, on aurait mieux fait de mourir en Égypte. Ça, c'est sûr qu'il y a des tombeaux là-bas, mais les pyramides tombeaux, ils sont pas pour tout le monde. Mais toujours est-il que, voilà, ils se sont mis à récriminer, à ressasser, et plus ils pensaient à leurs choses anciennes, plus ils pleuraient. Est-ce qu'ils s'étaient pas trompés d'objectif? Moi, je crois que Dieu leur dit, Canaan, c'est ici, c'est dans cette direction. Et eux, ils ont dit, mais le pays de Canaan, c'est de rester en Égypte. Ils avaient oublié les anciennes souffrances? Ils avaient oublié combien ils étaient fouettés? Combien ils étaient traités comme des bêtes de somme? Ils avaient oublié qu'ils étaient juste, à tout simplement à survivre? Ah oui. Quand Dieu veut sortir un malheureux de sa situation, eh bien, je crois qu'il faut que ce malheureux réponde à Dieu, parce qu'il ne peut pas faire de comparaison. Il n'a vécu que la souffrance, il n'a vécu que son malheur, il ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Et à ce moment-là, faut y aller. Quand vous avez une porte d'ouverte, je peux vous dire que vous dites ça à des prisonniers dans des centrales pénitentiaires, je peux vous dire, il y a une porte d'ouverte, vous allez voir ce qu'ils vont faire de la porte. Eh bien, nous, c'est pareil, quand Dieu nous ouvre une porte, il faut y aller. Faut pas... revenir en arrière en pensant que, en arrière, j'étais si malheureux. Ben, quand on va le répéter autant qu'on le répétera, et ben, on l'aura, ça c'est sûr, on sera encore malheureux. Mais Dieu veut ouvrir les portes de nos prisons. Il veut nous donner de nouvelles perspectives. Il veut nous donner aussi un renouvellement dans notre vision. Il y a autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est toujours meilleur, ça sera toujours le meilleur avec le Seigneur. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays? Nous allons mourir par l'épée, nos femmes, nos enfants, et bien ceci et cela. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de retourner en Égypte? Non, c'est terrible une chose pareille. Ce peuple de Dieu qui pense à retourner d'où il vient, il veut se remettre lui-même dans le malheur. Il veut se remettre lui-même dans la servitude épouvantable. Et ils se disent à ce moment-là, eh bien nous allons nommer un chef et nous retournerons en Égypte. Oh, il y aura un autre épisode qui sera véritablement un peu semblable à celui-ci. Où est passé ce Moïse? Où est passé ce Moïse qui est monté à la montagne? C'est au moment des 10 commandements, là, sur la montagne d'Horeb. Nous le voyons parvenir, c'était aussi 40 jours. Et ils vont dire, puisque nous savons pas où est passé Moïse, et puis que nous voulons un Dieu qui marche devant nous, on va se faire un veau. Un veau petit de la vache? Oui, c'est comme ça que ça se passe normalement, Pour représenter Dieu? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un outrage à Dieu. D'imaginer que notre Dieu, c'est un animal. Ça, c'est un sacrilège, une chose pareille. Alors, il pleure encore, là. Nommons-nous un chef. Il n'y aura jamais de chef. Dieu a dit, ce sera Moïse, et ce sera Moïse. Plus tard, Josué va être sollicité pour les faire rentrer dans le pays de Canaan. Mais pour l'instant, eh bien, c'est comme ça. Vous savez que Dieu tient bon, quand même, dans son plan. Il ne cède pas aux caprices des hommes. Ou aux faiblesses des hommes. Alors, il y a... Moi, je voudrais revenir quelques instants sur notre passage que nous avons lu, parce qu'il est quand même assez intéressant, et je voudrais donner quelques mots de commentaire. On a bien compris, ces allers-retours, la frontière qui s'ouvre, mais c'est les hommes qui le referment, par crainte, par peur, parce qu'ils redoutent, ils n'ont pas confiance en Dieu, ils sont incrédules. Écoutez bien. Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. L'apôtre Paul va l'illustrer à travers cette parole dans la conversion des hommes. Il dira, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la grande difficulté pour les hommes que nous sommes, et les chrétiens en particulier, c'est que nous avons peur. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur des chemins qui, quelquefois, sont pas toujours avec une grande visibilité. Souvenons-nous d'Abraham. Allez, quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. C'est ce qu'il a fait Abraham. Il mérite véritablement le titre de père des croyants, parce qu'il y est allé sans discuter. Eh bien, la même chose pour nous. Nous voulons voir du changement dans notre vie, nous voulons voir du changement dans l'Église, ça viendra. Nous voulons voir les choses positivement. Pas un changement dans le négatif, mais un changement dans le positif. Eh bien, Dieu nous dit, mes frères et sœurs qui avez souffert peut-être un petit peu les douleurs de l'Égypte, d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous êtes souffrant physiquement, soit parce que vous avez été sous les coups de l'ennemi, ou peut-être vous avez été tourmenté psychologiquement, moralement, à travers toutes sortes de déconvenues, à travers de toutes sortes de déceptions, à travers toutes sortes de choses. Eh bien, Dieu nous dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Ouais. Mais comment puis-je ne oublier? Et vous n'allez pas l'oublier. Vous en garderez le souvenir. Mais ça ne vous fera plus souffrir. Qu'est-ce qui est important? C'est de plus souffrir. Bien sûr, naturellement. Ne considérez plus en permanence à vous prendre véritablement la tête, on peut dire. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que, voici, nous dit Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Et c'est le cœur même de notre message. Je vais faire une chose nouvelle. Vous y croyez que c'est possible? Ouais. Il n'y a pas un grand enthousiasme. Mais quand même, on entend quand même Amen. Non mais le sourire vous amène. Votre sourire, parce que je vous vois hein, quand même. Hein. Ça vous amène. Mais c'est vrai. Je vais faire une chose nouvelle. Moi, je me réjouis, mes frères et sœurs, de ce que Dieu va faire des choses nouvelles. Ouais. Même si je ne sais pas où il nous conduit. Même je ne sais pas quelles seront l'articulation et le fonctionnement des églises demain. Mais je crois qu'il va faire des choses nouvelles. Et ça, faut avoir la foi. Et si on n'a pas suffisamment de foi, il faut le lui demander. Et il nous donnera ce qui sera nécessaire pour ouvrir les yeux et notre cœur, ou les yeux de notre cœur, pour que nous puissions rentrer dans ce plan merveilleux de Dieu. Parce que les choses nouvelles avec Dieu, elles sont toujours merveilleuses. Et Dieu n'est pas un Dieu statique, comme trop souvent les religions, calcifiées par toutes sortes de choses, et qui finissent par mourir parce qu'elles ne peuvent plus bouger, c'est un peu les statues de sel de la femme de Lot, elle a regardé en arrière, elle était toujours en train de regarder au passé, à ce qui était ancien, sa belle maison à Sodome, hein, ses gendres qui se moquaient, et puis tous ces gens qui faisaient n'importe quoi, elle était toujours en train de regarder derrière. Et figurez-vous qu'elle s'est transformée en salière. Enfin, en tous les cas, en statue de sel. Mais toujours est-il qu'elle n'a pas avancé, c'était fini. C'était fini pour elle. Et bien des communautés, bien des églises regardent tellement en arrière. À leur passé glorieux, certes leur passé glorieux, mais le passé glorieux d'hier, il peut être le passé, il peut être véritablement le glorieux de demain. Vous savez, on a vécu quelque chose d'extraordinaire par notre conversion à chacun. Il y a eu un tremblement de terre dans notre vie, il y a eu un bouleversement. Eh bien, peut-être que Dieu est en train de préparer des choses aussi pour nous bouleverser, mais faisons confiance au Seigneur. Faisons-lui confiance. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Moi, je me réjouis quand nous voyons des frères et des sœurs qui vont devenir des frères et sœurs, qui nous racontent leur histoire de conversion, qui vont se faire baptiser. Je me dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire une chose pareille, parce que là, il y a des choses nouvelles pour eux. Hein. Mais nous avons eu aussi des choses nouvelles au moment où on s'est converti. Ça nous a pris tellement notre vie. Ça nous a bousculé, ça nous a transformé. Nous avons été si heureux, nous avons été remplis du Saint-Esprit à ce moment-là, mais nous le sommes encore. Et pour être encore baptisé du Saint-Esprit, pour être encore rempli du Saint-Esprit de sa plénitude, il faut bouger. Parce qu'autrement, le Saint-Esprit, si ça bouge pas, il s'en va. Hein. Il s'en va. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? C'est une interrogation. Si vous voulez que je traduise ce mot, ne la connaîtriez-vous pas? Ça veut dire, mais est-ce que vous avez la foi pour croire ce que je suis en train de vous annoncer? Vous voulez qu'il se passe quelque chose dans notre vie? Ah ouais. Est-ce que vous croyez que c'est possible que Dieu fasse des choses extraordinaires encore dans notre vie? Eh oui, le Seigneur va le faire. Et il faut s'y attacher. Et qu'est-ce que nous dit Dieu dans le programme? C'est formidable, hein? Je mettrai un chemin dans le désert. Tiens, on avait parlé de désert tout à l'heure. Moi, je ne sais pas où on se conduit dans le désert, hein. C'est les pistes dans le désert. Et c'est souvent recouvert de sable parce que avec les vents d'hiver qui s'ouvrent tantôt d'une manière ou d'une autre, tout ça, c'est enfoui. Mais Dieu nous dit, je mettrai un chemin dans le désert. Mon frère et ma sœur, dans le désert, dans ton désert, Dieu est en train de dévoiler un chemin pour toi. Alors moi, ça résonne. Je suis le chemin. la vérité. Et je suis la vie. Et des fleuves dans la solitude. C'est extraordinaire parce que si vous avez l'occasion de prendre l'avion, et particulièrement pas dans nos régions, parce que bon, c'est autre chose, mais quand vous survolez un petit peu l'Afrique, il y a des endroits, c'est que quand vous regardez en bas, quand il fait beau temps, vous avez malheur à perte de vue pendant des heures, voire même, que du jaune. Et je me suis aperçu, pour ceux qui vont à La Réunion, quand je suis allé à Mayotte, hein, vous traversez une partie de l'Égypte à un moment donné, la Libye, l'Égypte et tout ça, et le spectacle est extraordinaire. Vous êtes là à 10 000 mètres d'altitude, faut pas descendre, hein, parce que là, c'est la marche est haute, mais toujours est-il que vous regardez, à un moment donné, vous voyez un fleuve qui serpente, moi j'ai identifié ça au Nil, hein. Et à ce moment-là, vous avez toutes les villes, toutes les populations, tout ce qui est vert, c'est autour du Nil, hein, dans les abords du Nil. Enfin, d'abord du fleuve, hein, disons ça comme ça plus précisément. Et tout le reste, alors à perte de vue, c'est encore du jaune, hein, c'est du sable, hein, tout simplement. Ça fait une impression pour nous dire que la vie, elle se met là où il y a de l'eau. Elle se développe là où il y a de la fraîcheur, là où les hommes se rassemblent et la vie est possible. Alors je mettrai des fleuves dans la solitude. Dieu va faire couler ce qui est nécessaire dans ta vie. Ça sera pas le désert. Il y aura cette fraîcheur, il y aura ce rafraîchissement. Les bêtes des champs me glorifieront. À combien plus forte raison les hommes alors à ce moment-là? Le chacal et les autruches, parce que j'ai mis des eaux dans leur désert. Alors si les animaux, naturellement, sont capables de louer le Seigneur, à combien plus forte raison croyons-nous que Dieu est capable de faire quelque chose pour nous de formidable? Mais Jésus le dira, ne vous inquiétez de rien. Regardez les lys des champs. Regardez les oiseaux du ciel, vous connaissez, hein, naturellement, hein. Mais votre Père les nourrit, pourquoi nous les hommes, nous inquiétons, et pourtant Dieu nous dit, viens et suis-moi, n'aie pas peur, ne crains pas, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, vous savez que nous sommes élus de Dieu, oui. C'est pas la peine d'attendre 2017 pour être élu, hein. Voilà. Bon. Mais toujours est-il que c'est une élection divine, celle-là. Il est mon Père Céleste, et moi je suis son fils. Mesdames, vous êtes ses filles. Et il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Évangile de Jean. Mais c'est moi, dit Jésus, je vous ai choisi. Je vous ai béni, c'est vrai. Je vous ai appelé, je vous ai élu, je vous ai appelé. Et je vous ai également établi. Pourquoi? Pour que vous portiez du fruit. Ouais. Les fruits de Canaan. Les fruits majestueux, les fruits merveilleux, les fruits savoureux. C'est ça, notre mission. Abreuvez mon peuple, mon élu, parce que ce que nous recevons, ce que nous avons reçu, il y en a tant d'autres qui ont soif autour de nous. Vous savez, ceux qui ne sont pas élus. Ceux qui sont appelés, mais qui n'ont pas répondu à l'élection encore. Parce qu'ils n'ont pas entendu l'appel. Ou ils ne veulent pas pour l'instant entendre l'appel. Mais ils ne sont pas encore élus. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Non pas parce que Dieu fait de la sélection, mais c'est les hommes qui sélectionnent Dieu. Nous voulons, nous ne voulons pas. Nous le suivons, nous le croyons, nous le suivons, nous ne le suivons pas. Alors c'est ça, justement. Et nous sommes appelés dans ce petit troupeau que nous formons, parce qu'on n'est pas très 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 nombreux, mais peu importe, hein, une chose ne regarde pas la quantité, elle regarde la qualité. Et je crois que derrière tout cela, eh bien, il nous est dit, pour abreuver mon peuple, ce que nous avons reçu, eh bien, nous devons le donner, mais d'une manière positive, pas à la manière des 10 espions, qui ont dit en vérité c'est un bon pays, et qui, tout de suite après, ont dit, mais attendez, c'est terrible cela. Soyons des chrétiens témoins, des ambassadeurs de Jésus, mais positifs. Quelquefois, il est arrivé d'entendre des chrétiens, ça me fait un peu vaciller, de dire, vous savez, c'est formidable, hein, de connaître le Seigneur, mais alors quand vous allez chrétien, vous allez en voir de toutes les couleurs. Hein. Alors, je peux vous dire qu'il y a un enthousiasme extraordinaire. Non? Ne soyons pas à la manière des 10 espions qui ont tout cassé, finalement. Mais soyons des Caleb ou des Josué en disant, mais nous montrons, nous nous emparerons du pays, et nous serons vainqueurs. Si on part en vaincu, c'est terminé, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Le peuple, nous dit Dieu, que je me suis formé, publiera mes louanges. Quel est le but de l'action du Saint-Esprit et de Dieu, de Jésus-Christ au milieu d'Église, c'est de faire de nous des disciples, c'est vrai, faire de nous des chrétiens, des chrétiennes, des disciples, mais c'est de faire de nous ce que nous célébrons, et nous avons commencé ce matin, à louer finalement les vertus de Jésus-Christ et la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Il y aura des ennemis, et je termine sur ça, il y aura des ennemis, parce que dans notre texte, si vous reprenez un petit peu plus loin, ainsi, verset 16, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dieu est en train de nous préparer un chemin, une armée. Il y a l'armée de Dieu, et il y a l'armée contre Dieu et contre l'armée de Dieu. Et vous avez remarqué ce qu'il est dit? Parce que Dieu reste toujours la haute main sur toute chose. Il a frayé donc ce chemin. Il a mis des eaux puissantes, dans les eaux puissantes, un sentier. C'est le contraire de ce que nous avons vu tout à l'heure. Avant, c'était l'eau qui courait dans le désert à cause de son aridité. Maintenant, c'est des eaux puissantes sur le sentier. Qui mit en campagne des chars et des chevaux. Ouais. À partir du moment où prenons position pour Dieu, eh bien, nous allons voir des ennemis. Nous allons avoir des gens. Nous allons voir des forces surnaturelles. Des forces spirituelles qui vont s'opposer parce que le royaume de Dieu, c'est la proclamation du salut. Une armée de vaillants guerriers, ennemis. Mais regardez, c'est Dieu qui vient en notre secours. Comme ça a été pour les armées d'Égypte. Soudain, toute cette armée de vaillants hommes couchés ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis et ils sont éteints comme une mèche. De quoi aurions-nous peur? Celui qui est avec moi, eh bien voilà, celui qui est avec moi n'est pas contre moi. Nous sommes avec le Seigneur. Et si nous sommes avec le Seigneur est avec nous. Et toutes les oppositions qui nous sont décrites d'une manière assez particulière dans Éphésiens chapitre 6, domination, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités et des esprits méchants dans les lieux célestes, je peux vous dire que le compte est déjà réglé. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et aujourd'hui, depuis que Jésus a été glorifié, c'est lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi. Tout ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre, dans le sens naturel. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes à faire face eh bien, tout simplement un appel particulier du Seigneur, pour les uns et pour les autres, pour l'Église, où le Seigneur, je crois, va ouvrir de nouvelles dimensions. On verra ça avec le temps. Mais moi, je pense que le Seigneur est en train de préparer de grandes choses. Nous avons travaillé ensemble pendant 11 ans. Moi, je pense que il va y avoir encore de nouvelles frontières qui vont s'ouvrir. Si on a peur, on en restera dans le désert. Mais si nous avançons avec la grâce et la force que Dieu nous donne, eh bien, ça serait une bénédiction. Bénédiction pour les églises. Bénédiction pour notre environnement extérieur. Et puis une bénédiction pour chacun d'entre nous. Vous savez, c'est une affaire d'obéissance. Et je termine par cette parole. Et mon juste vivra par la foi. C'est une parole merveilleuse que je vous dédie, et que je me dédie à moi-même. Que Dieu vous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Parce qu'en effet, Seigneur, il y a des temps où tu soignes ton peuple. Où le peuple de Dieu, c'est une infirmerie, c'est un hôpital où on prend soin de tous les blessés. Et il y en a, Seigneur. Puis à un moment donné, eh bien, Seigneur, tu nous dis, lève-toi et viens et suis-moi. Parce qu'en effet, Seigneur, nous avons à ce moment-là la capacité, Seigneur, eh bien, de rentrer dans ton œuvre. C'est vrai que dans toutes les armées du monde, lorsqu'il y a des blessés, on les envoie à l'arrière, pour qu'ils se soignent, pour qu'ils puissent reprendre des forces. Mais on ne les laisse pas sur le front. Mais quand le blessé a repris toutes ses capacités, sa vie, sa vigueur, ses forces, alors à ce moment-là, il peut reprendre sa place, mais ça sera jamais la même place. Ce sera là encore dans une autre position, une position que tu auras choisie, parce qu'il aura déjà été vainqueur de la mort. Il aura été vainqueur de tous ses combats précédents, et là il deviendra encore beaucoup plus. Sur le terrain de la victoire, il sera présent. Et nous te remercions et nous te bénissons. Merci Seigneur, pour tout ce qui était pu être fait par ta parole, par le soin des uns et des autres, par les échanges, par la communion fraternelle, à apprendre à nous aimer les uns les autres, à apprendre l'harmonie, Seigneur, du vivre ensemble, à, en effet, Seigneur, détester la division, et les critiques, et les mauvaises paroles. Ça, nous avons appris tout ça. Nous croyons en tous les cas l'avoir appris. Mais Seigneur, tu ne veux pas que l'Église reste, Seigneur, sur les événements passés, sur les histoires d'hier, mais c'est aujourd'hui, eh bien, des temps nouveaux. Je fais de nouvelles choses. Alors, Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Et si nous pouvons unir nos cœurs dans cette simple prière, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, c'est vrai, des ennemis qui sont toujours là, mais Seigneur, augmente-nous notre foi, au nom de Jésus. Merci, parce que la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas encore. La foi, c'est la démonstration des choses qui n'ont pas été encore manifestées. La foi, c'est de devoir marcher tout simplement en faisant confiance à ta parole. Et simplement comme Pierre, nous te disons, moi je te dis, sur ta parole, je jetterai les filets, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.